Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants. C'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Oh, comme je suis contente de vous retrouver sur les ondes de Fréquence 7. Parce que la vie est belle dès lors qu'on peut avoir des radios indépendantes qui passent de la bonne musique et présentent des émissions originales et qui sont locales. Voilà, dans cette radio différente, pas pareille et décalée. J'espère que vous aimez votre radio. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à payer votre adhésion sur fréquence7.net. Aujourd'hui, je vais vous raconter des contes qui viennent de Cuba, qui ont été collectés par Françoise Racmul et que j'ai trouvé dans un bouquin de la collection Castor Poche. Si Cuba nous était conté, voilà une île surgie de l'océan, allongée dans les eaux turquoises. Une île faite de plaines, de montagnes, de champs clairs, de plages blondes et de forêts, à la végétation luxuriante, à la faune innocente. La terre la plus belle que les hommes aient jamais contemplée, paraît-il. C'est aussi un peuple fier et beau, dont la peau couvre le champ des nuances du noir au blanc, en passant par le brun, le pain d'épices, le caramel, le cuivre, le miel. C'est un peuple métissé, car au fond, d'abord indien, réduit par les massacres de la conquête, à qui on est venu mêler le sang des esclaves africains, qui se déchirèrent pendant 3 siècles dans les champs et dans les sucreries, et puis les Espagnols, les conquistadors, puis les colons français surtout, les Haïtiens en révolte, les commerçants asiatiques du siècle dernier, et le fruit de ce métissage, eh ben, c'est le cubain d'aujourd'hui. Parmi les contes de Cuba, on trouve d'abord les mythes indiens de la naissance du monde. Ils sont très originaux, ils sont assez rares, Et on trouve aussi des contes d'origine espagnole sur une trame traditionnelle qui rappelle celle de Perrault ou de Grimm. On trouve les contes des orishas qui forment une catégorie spéciale. Ils appartiennent à la tradition africaine des Lukumi. C'est une tradition essentiellement orale mais qui pourtant a été transcrite en langue yoruba dans les manuscrits. On a des histoires d'animaux qui gardent souvent la trace de leurs doubles origines africaines et cubaines. Et puis, les mythes des origines indiens ou africains sont des récits consacrés aux orishas et sont nés de l'imagination superstitieuse des paysans. Ou bien on trouve aussi des fables qui mettent en jeu des animaux. Toutes ces histoires ressemblent aux recettes de la cuisine créole. Elles utilisent des ingrédients variés pour en confectionner un plat à la saveur unique. Par exemple, celui-ci, c'est un conte des origines. C'est la naissance de l'homme et de la femme. C'est un conte indien. Au début, les premiers habitants de Cuba étaient des Indiens, les Taïnos, qui cultivaient la terre. Et puis, il y avait les Siboneyes, qui vivaient de la cueillette, de la chasse et de la pêche. Et on ne sait pas grand-chose de leurs dieux. Leurs légendes nous sont parvenues par la tradition orale. Il y a un mythe Siboney de la naissance de l'homme qui a été recueilli dans la région de Cienfuegos, une ville que les Indiens avaient autrefois nommée Jagua, du nom de la deuxième femme cubaine. Jagua est née d'un rayon de lune et d'un amoncellement de fruits. Au temps des Indiens, Cuba était une île à la végétation exubérante qui fournissait à ses habitants des fruits à profusion. Aujourd'hui encore, si vous allez sur un marché à La Havane, vous serez frappé par les formes étranges et l'aspect coloré des légumes et des fruits que domine l'éclat des oranges douces ou amères. Voilà le conte. En ces temps très anciens, Huinon, le soleil, sortait régulièrement de sa caverne pour monter dans le ciel et éclairer Ocon, la terre. La terre était alors riche et fertile, couverte de plantes, fourmillant d'animaux, mais il n'y avait pas d'hommes. Huinon, le soleil, désirait qu'un être pensant puisse chaque jour guetter sa venue dans le ciel, s'en réjouir, l'admirer et l'adorer comme le seigneur de la lumière, de la chaleur et de la vie. Aussi créa-t-il par magie Amao, le premier homme. Et du fond des vallées riantes ou de la cime des hautes montagnes, tous les matins, l'homme saluait le soleil. Mais l'adoration qu'éprouvait Amao envers son créateur ne suffisait pas à emplir son cœur. Il errait, seul dans une nature luxuriante, peuplé d'êtres toujours prêts à s'aimer, L'amour et la vie éclataient partout avec force et Amao demeurait solitaire, l'esprit malade, et son existence lui semblait inutile. Depuis qu'il avait créé un être capable de l'adorer, Huinon le soleil ne s'était plus soucié de lui. Alors ce fut la douce Maroya, la lune, qui prit en pitié Amao l'homme, et pour lui, elle créa Guanaroka, la première femme. Quelle ne fut pas la joie de l'homme! Enfin, à ses côtés se trouvait une compagne avec laquelle partager ses plaisirs et ses peines, ses travaux et ses jeux. De l'union du premier homme et de la première femme naquit Imao, le premier fils. La première femme voua à son enfant un amour passionné, si bien que le premier homme devint jaloux et se crut abandonné. Alors une nuit, profitant du sommeil de la mère et de l'enfant, il enleva le bébé et l'emporta dans la montagne. Il faisait une chaleur excessive. Sans le lait de sa mère, l'enfant n'avait plus rien pour se nourrir. Et il mourut. Pour cacher son crime, Amao, le premier homme, prit une grande calebasse, y fit un trou et déposa à l'intérieur le cadavre déjà froid du bébé. Puis il l'accrocha à la haute branche d'un arbre et s'enfuit. Au matin, lorsqu'elle se réveilla, Guanaroka, la première femme, ne trouva pas près d'elle son enfant ni son compagnon. Elle s'affola et partit précipitamment à leur recherche. Elle gravit la montagne et fouilla longtemps les bois. L'angoisse lui serrait le cœur, elle n'en pouvait plus. Elle allait se laisser tomber sur le sol lorsqu'un oiseau au-dessus d'elle poussa un cri strident. Elle leva les yeux, elle aperçut la calebasse qui pendait à la branche d'un arbre. Frappée par un étrange pressentiment, elle se hissa jusqu'à la branche, s'empara de la calebasse, vit qu'elle était percée, regarda par le trou. N'y avait-il pas à l'intérieur le cadavre de son fils adoré? La douleur de Guanaroka, la première femme, fut si vive qu'elle laissa échapper la calebasse. Celle-ci se brisa sur le sol et de ses morceaux jaillirent des poissons, des tortues de toutes les tailles et de l'eau, beaucoup d'eau, se déversant jusqu'au pied de la montagne, jusqu'à la plaine tout en bas, jusqu'à la mer. Guanaroka regardait, stupéfaite, les poissons devenir rivières et les tortues, baies et promontoires. Les plus petites d'entre elles se transformèrent en une guirlande d'îles au large de la côte. Comme la mère inconsolable continuait à pleurer, de ses larmes amères naquit une lagune d'eau salée. Ainsi se forma la région qu'autrefois les Indiens appelaient Jagua. Cependant, Amao, le premier homme, avait reconnu trop tard que sa jalousie était sans raison et compris ce que devait être l'amour d'un père pour son enfant. Il avait ressenti pour la première fois une profonde peine. Quant à Guanaroka, la première femme, elle avait éprouvé la plus grande douleur qu'une mère puisse jamais connaître, la perte de son fils. Le premier homme et la première femme, mûris par la souffrance, se réconcilièrent. Guanaroka pardonna à Amao et un deuxième fils leur naquit, Kaonao. Kaonao, le deuxième fils enveloppé par l'amour de sa mère, eut une enfance calme et heureuse. Il devint homme. Alors il commença à ressentir une vague tristesse, une sorte d'inquiétude. Il ne comprenait rien à son état jusqu'au jour où il vit devant lui, sur la branche d'un arbre, deux petits oiseaux qui se becquetaient tendrement. Lui, toujours solitaire, n'avait pas de compagne à caresser, à laquelle confier ses souffrances, ses joies, ses désirs, ses espoirs. La seule femme qu'il connaissait, c'était Guanaroka, et elle était sa mère. Un soir qu'il se promenait dans la campagne, seul à son habitude, et qu'il essayait vainement de se distraire, il aperçut devant lui un arbre, haut et vigoureux, dont la cime formait un dôme. Il était surchargé de grands fruits ovales, de couleur brune. La plupart étaient mûrs et tombaient sur la terre où ils éclataient, montrant leur chair constellée de petits grains. Poussé par un désir irrésistible, Kaonao prit le fruit le plus beau et le porta avidement à sa bouche. Son goût, doux, amer, était agréable. La nature prodiguait ses biens à l'homme sans que celui-ci ait à se donner la moindre peine. Aussi, Kaonao retourna-t-il dans sa cabane chercher un panier d'écorce tressée. Il le remplirait de ces fruits étranges et délicieux qui semblaient faits exprès pour lui. Comme il commençait à les entasser en désordre avant de remplir son panier, un rayon de lune jaillit à travers le feuillage, frappant les fruits amoncelés. Et voici qu'à leur place apparut un être merveilleux, semblable à l'homme et pourtant différent. C'était Jagua, la deuxième femme. Jagua était une fille toute jeune et souriante, aux formes bien dessinées, au teint de velours doré, aux grands yeux caressants, à la bouche rouge et rieuse, à la chevelure exubérante d'un noir profond. Kaonao, en extase, ne se lassait pas de la contempler. La mélancolie avait disparu comme par enchantement. Désormais, il ne serait plus seul sur le chemin de la vie. Il avait une compagne à aimer et dont il serait aimé. Cette superbe créature, née la nuit, du contact d'un rayon de lumière avec un monceau de fruits mûrs, était un présent Maroya, la lune. Comme celle-ci avait dissipé la solitude de Amao, le premier homme, en lui envoyant Guanaroka, elle avait aussi empêché Kaonao, leur fils, de sombrer dans la tristesse, en lui faisant cadeau de Jagua. Kaonao mena une vie heureuse, chérissant la femme qu'il avait aimée dès le premier instant. Il la fit sienne et ils eurent de nombreux enfants. Le nom de Jagua signifie « source jaillissante, richesse souterraine, fontaine de bien, commencement ». Jiga dicte leur loi aux Indiens, les pacifiques Siboney. Elle leur montra comment cultiver les champs et soigner les malades. Elle leur enseigna l'art de la pêche et de la chasse, de la danse et du chant. Et l'arbre dont les fruits ont permis sa naissance se nomme aussi Jagua. Pour cette raison, les Indiens le considèrent comme sacré. Guanaroka, la première femme, ne mit au monde que des fils, et Jagua, la deuxième femme, seulement des filles. Les fils de Guanaroka et les filles de Jagua s'unirent, et c'est d'eux que nous descendons tous, nous les humains, qui peuplons la terre. Voici un deuxième conte indien, un deuxième conte des origines. Jadis, autour de la baie de Matanza, ne s'élevait ni montagne, ni colline. C'était une plaine absolument plate qu'arrosait un grand fleuve. La rivière Jibakabuya était son principal affluent. Et dans ses eaux, le dieu Murciélago avait établi sa demeure. Dans cette région, les Indiens vivaient de la chasse, de la pêche, ils cultivaient le manioc, le maïs et le boniato, une sorte de patate douce. Ils menaient une existence paisible et honoraient leur dieu. Il y avait parmi eux une jeune fille très belle, Baïguana. Elle avait un corps souple, un teint de miel, des yeux de feu, et ses cheveux noirs et luisants lui tombaient jusqu'aux pieds. Quand elle piquait dans sa chevelure une fleur rouge d'hibiscus, et qu'elle s'avançait de sa démarche ondulante, tous les hommes en devenaient fous, ce qui plaisait fort à la belle. Elle exerçait sur eux une telle fascination que pour demeurer près d'elle, peu à peu, ils cessèrent de travailler, d'aller à la pêche, à la chasse, et les semences prévues pour les champs restèrent au fond des jarres inutilisées. Ils risquaient de connaître la famine, eux, leurs femmes et leurs enfants. Cela ne pouvait plus durer. Alors le cacique, le chef du village, se rendit au bord de la rivière pour demander conseil au dieu Murciélago. Nul ne connaît exactement la réponse du dieu. Toujours est-il que le cacique retourna au village avec certains poissons qu'il venait de pêcher et qu'il offrit à la belle indienne. Baïguana, flattée, le remercia, prépara le poisson et le mangea. C'était le soir, l'heure où s'allument les étoiles, où les insectes font vibrer la campagne. La journée avait été si chaude que Baïguana décida de s'installer dehors. Elle s'allongea dans l'herbe devant le seuil de sa porte et elle regardait la lune monter dans le ciel. elle s'endormit. Le lendemain, au lever du soleil, elle était devenue montagne. Aujourd'hui, les habitants de Mantanzana appellent El Pan, le pin, cette montagne courbe douce dont la silhouette évoque une femme endormie. What a wonderful world. Une dernière petite histoire pour finir cette émission. C'était au tout début du monde. Le soleil et la lune se marièrent et ils eurent des enfants, beaucoup d'enfants, filles et garçons. Quand les garçons grandirent, ils commencèrent à se poser des questions au sujet de leur père. Tous les matins, le soleil partait et il ne rentrait que le soir. Où allait-il dans la journée? Que pouvait-il bien faire? Un beau jour, les enfants décidèrent de le suivre, en cachette naturellement, car ils craignaient leur père. Derrière lui, sur les chemins du ciel, ils avançaient l'un après l'autre, sans parler, sans se bousculer, le plus silencieusement possible. Que se passa-t-il alors? Un bruit, un mouvement imprévu dans la file, toujours est-il que le soleil se retourna. Lorsqu'il vit devant lui tous ses petits soleils, ses fils, aussi rayonnants, aussi resplendissants que lui, peut-être plus car ils étaient plus jeunes, le soleil se sentit jaloux. Il devint rouge comme un coq et s'apprêta à les corriger d'importance. Mais les enfants, épouvantés, s'étaient déjà enfuis, pêle-mêle et trébuchant. Comme ils ne connaissaient pas le chemin, ils se perdirent et tombèrent dans la mer où ils se noyèrent. Leur sœur, elle, restait toujours à la maison, sagement, vaquant à leurs occupations, comme on en attendait des petites filles à l'époque. Quand elles sortaient, c'était toujours avec leur mère. La lune ne se promenait que la nuit, suivie par le cortège de ses filles, les étoiles. Mais le soleil, qui a perdu ses fils à cause de son emportement, lui le soleil, il est toujours tout seul, alors que la lune, elle est entourée de toutes ses filles, les étoiles. Somewhere. C'est déjà temps de nous séparer. J'espère que ces petits contes venus de Cuba vous ont plu. Si vous voulez les réécouter, pas de problème. Vous pouvez réentendre l'émission le mercredi et le samedi à 16h et puis les retrouver en ligne, en podcast sans doute, en tout cas sur fréquence7.net. On se retrouve bientôt et en attendant, vous le savez maintenant, racontez-vous des histoires.